Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui l'étude du volume numéro 5 de l'œuvre de Mgr Gaume sur la Révolution. Mgr Gaume a donné un sous-titre à ce volume numéro 5, le voltairianisme. En fait, ce qu'il va faire, c'est expliquer de façon très détaillée comment les encyclopédistes ont préparé l'arrivée du virus révolutionnaire dans la cervelle de la plupart des Français, surtout des lettrés. Donc il va étudier cela surtout à partir des œuvres de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Mably, de Condorcet, d'Alembert, d'Helvétius, d'Holbach, et également de Diderot. Ce volume est d'une extrême importance. Quand j'ai commencé à le travailler, je vous ai déjà expliqué comment je travaille, en soulignant d'abord sur le texte original des passages importants, pratiquement, et il a fallu que je souligne presque tout le volume. Donc je vais sans doute passer pas mal de conférences sur ce seul volume, mais je vais essayer de vous expliquer, de vous synthétiser l'œuvre de Mgr Gaume, en allant un petit peu moins vite, parce que j'ai eu des remarques qui m'ont été faites avec raison, comme quoi je parlais toujours trop vite. C'est un peu difficile de plaire à tout le monde, parce qu'une autre personne m'a dit qu'il était très content que je parle un peu vite, parce que ça le maintenait éveillé pendant les conférences. Si je parlais trop lentement, il s'endormait. Donc on va essayer de plaire à tout le monde, de prendre un rythme de croisière à peu près correct. Alors, commençons par l'introduction de Mgr Gaume. Donc il fait toujours la même chose. Il commence par un avant-propos, où il va expliquer ce qu'il va faire, le sujet qu'il va aborder, comment il va l'aborder. Ensuite, il développe chaque point du sujet et puis, en fin de volume, il fait un résumé. Ainsi, pour tous ceux qui ont les originaux et qui n'ont pas le temps d'étudier tout le volume, ben, vous pouvez au moins lire complètement l'avant-propos et la conclusion. Ce sera déjà quelque chose. Donc voilà ce qu'explique Mgr Gaume. C'est un volume particulièrement important. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà expliqué souvent, que le poisson pourrit d'abord par la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon va essayer de mettre les faux principes dans la manière de penser des gens, donc dans les cervelles des gens, et surtout des lettrés. Des gens qui, en principe, je dis bien en principe, font partie de l'élite. Une fois que le poison révolutionnaire a été placé dans la cervelle de l'élite, ensuite de l'élite, ce poison va passer à tout le monde. Ce que fait le démon, en fait, c'est tout simplement mettre le poison à la source du fleuve. Une fois que le poison a été placé à la source du fleuve, évidemment, tout le fleuve va être contaminé. Donc nous allons voir que les principes révolutionnaires, c'est d'abord une maladie épouvantable de l'intelligence. L'intelligence ne fonctionne plus d'après les règles naturelles que le bon Dieu a placées dans cette intelligence. C'est Dieu lui-même qui a voulu nous donner l'intelligence avec pour objet formel le vrai. Donc nous allons expliquer avec Mgr Gaume. Je résume rapidement un point philosophique très important que j'ai déjà expliqué dans beaucoup de d'autres conférences, mais que je réexplique là pour être sûr que vous compreniez bien, surtout ceux qui n'ont pas écouté les autres conférences que j'ai pu donner sur d'autres sujets. Donc l'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai. Donc Même si vous avez 10 000 personnes qui étudient le vrai, comme le vrai est unique, donc les 10 000 personnes utilisant leurs 10 000 intelligences, chaque personne ayant sa propre intelligence, donc ces 10 000 personnes vont étudier le même vrai. Donc la personne qui étudie, c'est ce qu'on appelle en philosophie le sujet. Le vrai que l'on essaye d'atteindre avec l'intelligence, c'est l'objet. Donc il est évident que les 10 000 intelligences, donc les 10 000 sujets, vont devoir se soumettre à l'objet existant à l'extérieur de ces intelligences. Donc même s'il y a 10 000 sujets, il y aura un seul objet et les sujets se soumettent à l'objet extérieur. Ainsi, on appelle ce genre de moyen de connaissance l'objectivisme, c'est-à-dire l'objet qui est premier. Celui qui a le mieux expliqué cela, c'est le maître Saint Thomas d'Aquin. Donc l'objectivisme est le fondement philosophique d'un usage normal de notre intelligence. Donc si le démon veut détruire une intelligence, mettre le poison dans une intelligence, la première chose qu'il va devoir faire, c'est empêcher les sujets d'utiliser correctement leur intelligence. Bon. On appelle cet objectivisme également le réalisme. Le réalisme parce que on se soumet à la réalité des choses. Qu'est-ce qu'a fait la Révolution? Ça va être tout le travail justement de ces encyclopédistes que nous allons étudier, surtout de Voltaire, c'est d'inverser le système. Au lieu que de soumettre les intelligences individuelles à une vérité unique, ils vont soumettre la vérité à chaque intelligence, ce qui fait que chaque intelligence pardon, va pouvoir avoir sa propre interprétation de la vérité. Et donc, il y aura une vérité par sujet. La vérité extérieure devant se soumettre à la volonté personnelle de chaque sujet, on appelle ce système complètement absurde le système du subjectivisme, parce que le subjectivisme consiste à placer le sujet en premier. C'est un humanisme. Et ce subjectivisme a un synonyme, on appelle aussi ce subjectivisme l'idéalisme. C'est-à-dire qu'on ne vit plus dans la réalité du réalisme, on vit dans un système complètement déconnecté du réel, qu'on appelle un système virtuel, si vous voulez, un système d'idéalisme. On dit que le père du subjectivisme, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant vivait à peu près à cette époque, il a dû mourir au début du 19e siècle. Bon. Ici, dans ce volume, Monseigneur Gaume va surtout analyser le travail de Voltaire et le travail de continuation de Voltaire sur tous les autres encyclopédistes. Alors voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Avoir établi d'une manière incontestable que la Révolution française de 1789 fut la mise en scène des études de collège suffirait, ce nous semble, à justifier les instantes prières que depuis 4 ans nous nous permettons d'adresser au gouvernement, aux familles, aux maîtres de la jeunesse pour les engager à réformer un système d'enseignement d'où est sortie une pareille catastrophe. Toutefois, afin de ne laisser aucun nuage dans les esprits, nous devons répondre à une objection. Il en est qui, regardant le voltairianisme ou la philosophie du XVIIIe siècle comme une des causes principales de la Révolution française, disent: sans aucun doute, les études classiques contribuèrent puissamment à la Révolution. Mais Voltaire, Rousseau, Mably et les autres philosophes du siècle passé n'ont-ils pas été les principaux auteurs de ce grand événement? Toutes les doctrines religieuses, sociales, politiques de la Révolution ne se trouvent-elles pas dans leurs écrits? Et leurs écrits n'étaient-ils pas, à la fin du XVIIIe siècle, les oracles de l'opinion? Alors, le fait est vrai, reconnaît Monseigneur Gaume. Nous voulons faire mieux que de le reconnaître. En fait, ce qu'il va montrer maintenant, c'est qu'en fait, toutes ces conséquences viennent de la même cause. Et la même cause, c'est le polythéisme de la Renaissance, qui vient en fait des Grecs et des Romains, tout à fait au début. Donc, je vous l'ai déjà dit, le polythéisme, qui est en fait un athéisme, il faut voir les choses, de l'Antiquité grecque et romaine, va être réutilisé par la Renaissance, l'humanisme XIVe, XVe, XVIe siècle, et les encyclopédistes du XVIIIe siècle. Voltaire, c'est avant la Révolution. Voltaire a surtout écrit autour des années 1750. Eh bien, ce que vont faire les révolutionnaires, c'est utiliser le poison de l'Antiquité grecque et romaine, poison polythéiste, poison athée, passé par l'intermédiaire de l'humanisme, la Renaissance du 14e, 15e et 16e siècle, et le mettre dans les esprits par l'intermédiaire des livres. Ce que va faire Voltaire, il va inonder l'Europe de petits pamphlets très bon marché, distribués partout par les colporteurs, surtout, on verra, à cause de la faiblesse de Louis XVI. Louis XVI avait confié le ministère de la librairie, on verra ça plus tard, à Malesherbes, qui va permettre justement la diffusion de ces idées épouvantables partout. Les gens, n'utilisant plus correctement leur intelligence, ils ouvrent le barrage, si vous voulez, à toutes les idées. Le démon peut rentrer dans toutes ces intelligences et en faire ce qu'il veut. Donc, reprenons le texte de Monseigneur Gond. Le fait est vrai et nous voulons faire mieux que de le reconnaître afin d'aider au triomphe de l'objection. Nous allons, fidèles à notre méthode historique, établir que les documents incontestables, par des documents incontestables, pardon, la part qui revient au voltairianisme dans le cataclysme de 1789. Après quoi, on nous permettra de montrer celle qui revient aux études classiques et à la Renaissance dans le voltairianisme lui-même. Tel est l'objet de ce nouveau travail dont voici la division. Il faut bien analyser cet avant-propos pour comprendre le livre, le volume numéro 5. Nous adressant à la Révolution elle-même, nous lui demandons, est-il vrai que tu comptes Voltaire, Rousseau, Mably et les autres philosophes du XVIIIe siècle parmi tes ancêtres? Quand Monseigneur Gaume utilise le terme philosophe du XVIIIe siècle, il veut dire en fait les encyclopédistes. Puis, nous adressant à Voltaire, à Rousseau, à Mably et aux autres philosophes, nous leur demandons, qui êtes-vous? Comment êtes-vous apparu dans le monde? Quelle est votre généalogie? De qui êtes-vous fils? Comme nous avons constaté, la descendance de la Révolution, non par des raisonnements mais par des faits, nous suivrons la même marche pour constater la filiation du voltairianisme. Donc, Monseigneur Gaume va répondre aux objections par les faits, par la réalité des choses. Nous tenons à le répéter, ce n'est pas de la polémique que nous faisons, c'est de l'histoire. Alors, Monseigneur Gaume va d'abord parler de l'apothéose de Voltaire. Voltaire est mort avant la Révolution de 1789, mais la Révolution de 1789, plus exactement les intelligences qui ont fait la Révolution de 1789, ont vite compris que c'était dans Voltaire qu'il fallait voir l'origine de tous ces faux principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc voilà ce que dit Monseigneur Gaume dans le volume numéro 1. Dans le chapitre, maintenant, dans le chapitre numéro 1er, chapitre 1, sur l'apothéose de Voltaire. Voilà ce qu'il dit. Il est un reproche qu'on n'a jamais fait à la Révolution, et qu'en effet elle ne mérite pas, c'est d'ignorer sa généalogie et de méconnaître ses ancêtres. Or, ses premiers sourires furent tout à la fois pour Brutus, Scaevola, Thémistocle, Lycurgue, Voltaire, Rousseau, Mably. À peine sorti des langes de son berceau, elle manifeste sa piété filiale en associant dans les mêmes honneurs ses pères et ses aïeux. Donc l'histoire nous a dit ce qu'elle a fait pour les premiers chefs de sa lignée, il lui reste à nous apprendre ce qu'elle a fait pour ses ascendants immédiats. Donc dis-moi où sont tes amours, en quelque sorte, et je verrai quel est le démon qui t'habite. Si on est amoureux fou d'un certain auteur, on ne peut pas nier que cet auteur va avoir une influence considérable dans tout ce que nous pensons. N'oubliez pas encore une fois que nous sommes là en plein subjectivisme, c'est-à-dire que c'est l'intelligence qui devient indépendante de la réalité et de la vérité. Chacun fait sa propre vérité à cause de du soi-disant dogme de liberté. Parce que je suis libre, je refuse de soumettre mon intelligence à une vérité qui m'est imposée de l'extérieur. Même si cette personne qui m'impose cette vérité de l'extérieur s'appelle Dieu. L'homme s'étant fait Dieu, se voulant Dieu, va considérer que tout ce qu'il fait est divin. Pour bien comprendre cela, il faut remonter des choses que j'ai déjà souvent expliquées, mais il faut revenir là-dessus. Lorsque le démon a roulé Adam et Ève dans la farine, il les a roulés avec 4 mensonges. Il ne faut jamais oublier ces 4 mensonges parce qu'ils sont à la base de tout le système révolutionnaire. Qu'est-ce que a dit le démon à Adam et Ève ? Qu'est-ce que dit Voltaire aux hommes de son temps ? Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Il faut expliquer ça comme ça. On vous a maintenu dans un obscurantisme total, c'est le rôle de l'Église catholique de vous avoir maintenu dans cet obscurantisme. Maintenant, vous allez enfin ouvrir vos yeux. Et donc, vous ne mourrez plus parce que vous allez devenir des dieux vous-même. Un dieu, c'est éternel, donc l'homme devient éternel. Vous n'êtes plus soumis à des chaînes forgées par l'Église catholique, vous êtes libre. Comme vous devenez Dieu, vous allez donc pouvoir décider par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal, parce que c'est Dieu qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. C'est Dieu qui a dit, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. C'est les 10 commandements de Dieu. Comme l'homme devient Dieu, il peut tout soigneusement écarter, éliminer totalement les 10 commandements de la loi de Dieu et remplacer ces 10 commandements par des commandements nouveaux qu'il fait lui-même et qu'il a le droit de faire lui-même parce qu'il est devenu Dieu. C'est la déclaration des droits de l'homme. Alors, Monseigneur Gaume va d'abord expliquer l'apothéose de Voltaire pour bien montrer son influence sur les révolutionnaires. Ça s'est passé... Ouais, ça commence le dimanche 8 mai 1791. La municipalité de Paris demande à l'Assemblée nationale que les restes de Voltaire soient amenés triomphalement dans la capitale. Regnault appuie la demande, attendu, dit-il, que Voltaire est le seul homme qui ait repoussé le fanatisme et éclairé l'ignorance. Je vous rappelle que Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, est mort à Paris le 30 mai 1778. Donc il est mort 11 ans avant la révolution de 1789. Malheureusement, ses principes avaient corrompu tellement d'intelligence que le travail était pratiquement déjà fait et que les révolutionnaires de 1789 n'ont fait que faire éclore l'œuf, en quelque sorte, que Voltaire avait pondu. Un autre révolutionnaire dit, Voltaire, en 1764, commençait la révolution dont nous sommes témoins. Il l'annonçait telle que nous la voyons. C'est à lui, donc, que nous la devons. Vous voyez, les révolutionnaires reconnaissent qu'ils doivent cette révolution et ses principes modernes de liberté, d'égalité et fraternité à Voltaire lui-même. Et c'est peut-être, disent-ils, un des premiers pour lesquels nous devons les honneurs que vous destinez aux grands hommes qui ont bien mérité de la patrie. Je ne parle pas ici de la conduite particulière de Voltaire, il suffit qu'il ait honoré le genre humain, qu'il soit l'auteur d'une révolution aussi belle, aussi grande que la nôtre, pour que nous nous empressions tous de lui faire rendre au plus tôt les honneurs qui lui sont dus. Alors, ce qui est ahurissant, c'est que la révolution appelle Voltaire un grand homme, celui qui, toute sa vie, était l'esclave des plus ignobles passions. Et il considérait comme bienfaiteur de la patrie celui qui, dès le premier jour où il sut tenir une plume, ne cessa d'outrager les plus pures gloires de son pays, de le démoraliser par les moyens les plus sataniques. On l'appelle l'honneur du genre humain, celui dont la vie littéraire fut une prostitution continuelle du talent, parce que Voltaire avait beaucoup de talent, et c'est justement ça qui fait son danger. Lui qui a fait une attaque insensée contre l'édifice religieux et social, dont la chute devait attirer sur le monde des maux incalculables. C'est un outrage à la vérité, un renversement du sens chrétien. Mais il est vrai que Voltaire a fait la révolution parce qu'il est le père de la Révolution. Voltaire, disait un autre révolutionnaire à la Chambre, Gossin, a créé un monument qui repose sur les plus grands bienfaits comme sur les plus sublimes productions du génie. Voltaire a terrassé le fanatisme, fanatisme c'est le catholicisme, Voltaire a terrassé le fanatisme, dénoncé les erreurs jusqu'alors idolâtrées de nos antiques institutions. Il a déchiré le voile qui couvrait toutes les tyrannies. Et on voit très bien que chez les révolutionnaires, on associe toujours certains mots à d'autres mots pour les faire rentrer dans les cervelles. Par exemple, ici, on voit très bien que les révolutionnaires vont éviter d'utiliser le mot catholicisme ou église catholique, qui vont parler systématiquement du fanatisme et de la tyrannie. Pour que petit à petit, les gens, à force d'entendre cette association répétée des milliers de fois, finissent par la croire. Mentez, 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 disait Voltaire, il en restera toujours quelque chose. Et beaucoup de Français sont comme ça. Actuellement, vous avez des Français qui vous disent « Ce doit être vrai ce qui est dit parce que c'est la télévision qui l'a dit. » Alors que quelqu'un qui a un peu de jugeote devrait dire « La télévision le dit, donc ce doit être faux. » Vous voyez, c'est très important d'arriver à comprendre ça. Je vous donne un exemple tout simple, un exemple historique. On voit très bien que la Révolution, entre autres, veut démolir complètement l'œuvre du général Franco en Espagne. Donc à chaque fois que la Révolution, dans les cinémas, dans les écrits, dans les kiosques de journaux, partout, dans tous les médias, à chaque fois que la Révolution parle de Franco, du général Franco, elle va associer Franco au terme dictateur. C'est toujours systématiquement le dictateur Franco. Ils font la même chose, par exemple, avec le général Pétain. À chaque fois qu'ils parlent du général Pétain, ils vont associer le terme général Pétain au terme de collaborateur. Collaborateur Pétain, pour bien que ça rentre dans les esprits. Eh bien, la Révolution fait la même chose avec le catholicisme. Donc, les Français, disent les révolutionnaires, devenus enfin libres, décerneront au libérateur de la pensée, Voltaire, l'honneur qu'a reçu d'eux un des fondateurs de la liberté. Donc, je réclame les honneurs du Panthéon pour le philosophe qui osa, un des premiers, parler au peuple de leurs droits, de leur dignité, de leur puissance, au milieu d'une cour corrompue. Son regard perçant a lu dans l'avenir et a aperçu l'aurore de la liberté, de la régénération française, dont il jetait les semences avec autant de soin que de courage. Voltaire a fait par son exemple une révolution dans l'histoire, et bien cette révolution a préparé la nôtre. On voit très bien que Mgr Gaume parle de faits, parle des textes. C'est ça que plus j'étudie Mgr Gaume, plus je me rends compte à quel point l'accusation qui a été faite par certains prêtres, même célébacantistes, hélas, qui accusent Mgr Gaume de ne jamais donner ses sources, est fausse. En fait, quand vous étudiez ici l'ouvrage de la Révolution, en bas de pratiquement chaque page, il y a les références des textes qu'il cite. Donc le corps de Voltaire va donc être conduit, dit Mgr Gaume, au milieu des acclamations du peuple, sur les ruines de la Bastille. Une plateforme domine l'emplacement de la tour qui a servi de prison à Voltaire. Avant d'y être placé, son cercueil est montré à la foule, qui au plus vif applaudissement fait succéder à un religieux silence. Vous voyez, le républicanisme va transformer les erreurs de la Révolution en religion. Et donc, un des dieux de la religion, c'est Voltaire. Donc, on va vénérer le corps, les cendres de Voltaire, comme les catholiques vénèrent des reliques. Là repose, d'ailleurs le terme est utilisé par Mgr Gaume, là repose jusqu'au lendemain les reliques du libérateur de la pensée au milieu des fleurs et des arbrisseaux de toute espèce sous un berceau de roses, de myrtes et de lauriers. Donc on considère que Voltaire a libéré les intelligences. Je vais vous donner un petit exemple que je donnais souvent quand j'essayais d'expliquer ça aux adolescents quand j'étais professeur en école. Bon. Je vais donner toujours un exemple d'un perroquet. Et ce perroquet, j'avais appelé dans mon exemple Fifi. Donc, ce qui a évidemment poussé à les enfants, les adolescents qui m'écoutaient, à me donner comme surnom Fifi. Donc, ils m'ont toujours appelé derrière mon dos Fifi. Bon. Mon perroquet, dans mon histoire, s'appelle Fifi. Bon. Fifi est un perroquet qui vit dans une cage, une grande cage. Et il a une maîtresse qui s'occupe très bien de lui, qui change son eau tous les jours, lui donne des tas de graines pour plaire à son perroquet, qui l'appelle par des tas de noms plus mignons les uns que les autres, qui s'occupe de lui avec grand amour. Mais le perroquet, malheureusement, a trop regardé la télévision dans sa jeunesse, il a dû trop lire les récits impies de Voltaire et les encyclopédistes, et ce perroquet s'est mis dans la tête qu'il était prisonnier et qu'il manquait de liberté, qu'il voulait une liberté. Il voulait trouver sa liberté. Donc il n'arrête pas de se plaindre et de dire à sa maîtresse « Je veux que tu ouvres la porte de la cage et je veux voler dans le grand air et faire ce que je veux. Ici, je ne peux pas faire ce que je veux parce que je suis dans une prison. » La maîtresse lui explique, essaie de lui faire utiliser sa petite intelligence de perroquet, bien qu'il n'en ait pas, mais enfin, dans mon histoire, il en a, et dit au perroquet, « Fifi, fais attention, parce que dans la cage, tu es protégé. Tu n'as pas à te battre pour trouver ta nourriture, je t'apporte de l'eau, des graines, je change les graines régulièrement, je change l'eau régulièrement pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Tu as tout ce dont tu as besoin comme perroquet, tu n'as pas besoin d'autre chose. Ah non, non, je veux ma liberté. Attention, Fifi. Dehors, c'est le grand monde. Il y a beaucoup de dangers. Il y a des prédateurs partout. Et tu ne vas pas pouvoir trouver ta nourriture qui ne te sera pas avancée comme ici dans ta cage. Et là-bas, tu n'auras personne pour te protéger. Non, 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 je veux ma liberté. » Et la bonne maîtresse essaye d'expliquer à Fifi le danger de ce qu'il veut faire. Mais Fifi n'écoute rien du tout. Alors, après avoir essayé de ramener à la raison Fifi pendant des mois et des mois, finalement, la maîtresse, qui sait très bien ce qui va se passer, décide donc de rendre la liberté à Fifi, pour lui donner une leçon. Et donc, elle amène la cage près de la fenêtre, elle ouvre la fenêtre, elle ouvre la porte de la cage et elle dit à Fifi, écoute, voilà, puisque tu veux être libre, eh bien, prends ta liberté. Ne viens pas te plaindre après. Alors, Fifi sort de sa cage tout content et commence à voler dans le grand air, dans le grand jardin qui est à côté de la maison, dans laquelle était la cage. Il est tout content, il a enfin la liberté, il peut voler où il veut, faire ce qu'il veut, il n'a plus d'ordre à recevoir, c'est magnifique, extraordinaire. Au début, tout va bien. Tout va bien parce qu'il trouve, c'est le printemps, il y a des petites graines partout, il y a de l'eau un peu partout, donc il peut boire, il peut se nourrir, tout va bien. Et puis la première nuit, il passe sa nuit dans les arbres, il est tout content parce qu'il se fait des tas de petits copains, il va faire ce qu'il veut, c'est magnifique. Et puis, le deuxième jour, il recommence sa journée, le soleil brille, tout est beau, tout est magnifique, alors il étend ses ailes, il est tout content, et puis il commence à chercher son petit déjeuner parmi les pousses du grand jardin ou à côté, et puis il y a quelqu'un d'autre qui commence à envahir les cieux, c'est un aigle. Un aigle, lui, est monté dans les cieux et il cherche lui aussi son petit déjeuner. Alors l'aigle, il ne mange pas des petites fleurs ou des petites brindilles ou des petits bourgeons ou des petites graines. L'aigle, il cherche de la chair à manger. Il cherche un oiseau incapable de se défendre pour manger. Et comme l'aigle a une vue perçante, il a vite repéré un nouvel individu qui voltige partout sans aucune précaution, c'est le perroquet Fifi. Et l'aigle se dit, ah, voilà mon petit déjeuner qui m'est servi sur un plateau magnifique. Ce perroquet a manifestement été très bien nourri par sa maîtresse, je vais en faire mon petit déjeuner. Mais Fifi ne s'occupe pas de l'aigle, il ne l'a même pas vu, il ne s'occupe pas de cette ombre menaçante qui commence à planer au-dessus de l'endroit où il voltige. Et il continue de jouir de son insouciance et de sa nouvelle liberté qui le rend totalement ivre. Et il continue à chantonner. Et d'un seul coup, il lève le nez et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit cet aigle qui arrive à toute vitesse, parce qu'un aigle ça va très vite, qui arrive à toute vitesse, avec ses serres menaçantes, un gros bec, manifestement, pour l'attraper et le dépecer tout vivant. Or, c'est la panique évidemment chez Fifi, qui prend ses ailes, qui se met immédiatement à voler le plus vite possible, pour essayer d'éviter l'aigle. Il n'arrive pas à l'éviter parce que l'aigle vole beaucoup plus vite que lui. Alors, Fifi se dit, oh là là, je vais te manger tout cru, c'est terrible, c'est épouvantable. Vite, que j'aille retrouver la protection de la cage. Donc, il se précipite à toute vitesse pour retourner dans sa cage. Mais la fenêtre est fermée. Donc, il ne peut pas rentrer dans la maison. Alors, il est à la fenêtre et il va, avec son bec, taper de toutes ses forces sous la fenêtre pour avertir sa maîtresse, parce que l'aigle arrive, elle va le manger. Alors il se précipite à la fenêtre, il tape avec son bec sur la fenêtre, en hurlant aussi fort que possible avec son petit bec, avec sa petite langue. « Maîtresse, maîtresse, ouvre-moi !» Heureusement, la maîtresse était à la maison. D'ailleurs, elle se doutait ce qui allait arriver. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient voir, elle voit son fifi de l'autre côté de la fenêtre. Alors elle a pitié de lui, elle lui ouvre la fenêtre. Évidemment, elle referme tout de suite la fenêtre pour protéger son imbécile de perroquet. Elle ouvre la porte de la cage. Fifi se précipite dans la cage, elle referme la porte. Et l'aigle, ben évidemment, se retrouve à devoir jeûner aujourd'hui parce qu'il a perdu son petit déjeuner et il s'écrase contre la vitre qui l'empêche de rentrer et de poursuivre Fifi dans la maison. Alors Fifi est rentré dans la maison, il est rentré dans sa cage. Alors là, il a compris. Alors il demande pardon à sa maîtresse. Oui, maîtresse, tu avais raison. Effectivement, j'étais un imbécile et je n'ai pas utilisé ma cervelle pour comprendre ce qui se passait. Et là, ici, je suis protégé. Eh bien, cette histoire, qui a été répétée après en boucle par les enfants pendant les récréations, à l'école où j'avais enseigné, c'était à Camblin-l'Abbé, dans le Nord, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, une vieille histoire. Eh bien, les enfants ont compris. Et la morale à tirer de l'histoire, c'est que la liberté révolutionnaire est une fausse liberté. Parce qu'en fait, la liberté révolutionnaire est une chaîne. Lorsqu'on est sous l'esclavage des trois concupiscences, de la chair, des yeux et de l'orgueil, on est enchaîné par ces concupiscences. Donc celui qui coupe ces trois chaînes trouve la véritable liberté. Donc les gens qui sont les plus libres sont qui ? Les gens qui sont les plus libres sont par exemple les moines, les religieuses dans un couvent, dans un monastère. Parce qu'ils sont protégés par les trois concupiscences, par les trois vœux de chasteté, pauvreté et d'obéissance. Donc par le vœu de chasteté, il se protège, il coupe la concupiscence de la chair. Par le vœu d'obéissance, il coupe la concupiscence de l'orgueil. Et par le vœu de pauvreté, il coupe la concupiscence des yeux. Donc ils sont libres, ils ont la véritable liberté. Au contraire, ceux qui suivent les principes de la révolution, qui sont sous l'esclavage des trois concupiscences, de la chair, des yeux et de l'orgueil, qui se prennent pour Dieu, qui veulent tout voir, qui veulent tout toucher, qui font commettre tous les péchés possibles et imaginables qui se peuvent commettre, ceux-là sont enchaînés. Donc le révolutionnaire est en fait enchaîné. C'est pour cela que Voltaire disait « mentez, mentez, mentez ». Le révolutionnaire, l'être révolutionnaire, est un menteur et qui se ment d'abord à lui-même. Alors cette petite histoire est importante pour comprendre maintenant ce qui va se passer. Donc voilà l'inscription qui avait été placée au-dessus du lieu où les cendres de Voltaire vont être adorées par la Révolution. Reçoit en ces lieux où t'enchaîna le despotisme, parce qu'on est sous l'emplacement de la Bastille, reçoit en ces lieux où t'enchaîna le despotisme, despotisme un autre terme pour désigner l'Église catholique, Voltaire, les hommages que te rend la patrie. Reçois donc en ce lieu où t'enchaîna le despotisme les hommages que te rend la patrie. Que c'est mignon. Le lendemain, 11 juillet, a lieu la translation des restes de Voltaire au Panthéon. Ça, c'est un édifice que j'ai toujours refusé de visiter à Paris, c'est le Panthéon. J'y mettrai jamais les pieds. On voit, donc, Mgr Gaume va après détailler tous les ce qui va se passer pendant cette cérémonie d'apothéose. C'est ahurissant. Il va donner tous les détails, la façon dont l'adoration de la Révolution de la part de la Révolution au reste de Voltaire est organisée, les chants, il donne les détails des chants, les détails des danses, etc. Donc je n'ai pas le temps de tout vous lire parce que ça prendrait des heures et des heures. Je vais vous donner simplement certains passages. Donc entre autres, on voit parmi les gens qui rendent cet hommage public à Voltaire, une femme en Amazone revêtue de l'uniforme de garde nationale, distinction que sa coopération à la prise de cette forteresse lui a fait accorder. Elle est armée d'un bâton, dont le haut bout, terminé par une pointe de fer, porte une banderole qui dit ces mots « la dernière raison du peuple ». Un groupe de citoyens, armés de piques, dont l'une est surmontée du bonnet de la liberté, avec cette légende « de ce fer naquit la liberté ». On voit très bien, vous voyez, dans l'esprit de la Révolution, que cette liberté est en fait de la licence. Alors, une députation, dit Mgr Gaume, des différents théâtres de la capitale précédant immédiatement la statue de Voltaire. Statue en or, s'il vous plaît, couronnée de lauriers, portée par les jeunes élèves des arts en costume antique. Les uns élèvent dans les airs au milieu des guirlandes de chêne et des divers attributs des muses, des médaillons où se lit le nom des principaux ouvrages du demi-dieu. Les autres portent un coffre doré qui renferme une édition de ses œuvres en 70 volumes. C'était un présent de Beaumarchais. 70 volumes de poison. Voilà ce qu'a fait Voltaire. 70 volumes, ça fait beaucoup pour un seul homme. Il était écrit sur ce théâtre révolutionnaire aux mânes de Voltaire. Il combattit les athées et les fanatiques, il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude et la féodalité. Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l'esprit humain et nous a préparé à devenir libres. Vous voyez que tous les détails sont là pour impressionner les foules. Partout, explique Mgr Gaume, on voyait les bustes de Voltaire couronnés, on lisait les maximes les plus connues de ses immortels ouvrages, elles étaient dans la bouche de tout le monde. Mgr Gaume va donner d'autres détails. Donc, il va préciser aussi que, c'est son chapitre 2, ce qu'elle venait d'accomplir en l'honneur de Voltaire, la Révolution va aussi le faire pour Rousseau. Dans le moment, disent les révolutionnaires, un révolutionnaire qui s'appelait Aymar, dans le moment où la plus étonnante et la plus complète des révolutions s'opère en France, quelle reconnaissance ne devez-vous point à celui qui vous a mis dans les mains les armes victorieuses avec lesquelles vous avez combattu le despotisme et assuré pour jamais nos droits à la liberté. Je demande qu'après avoir donné un grand exemple au monde, cette gloire soit encore réservée à la France d'avoir, à l'exemple des peuples anciens, honoré d'une manière digne d'elle et digne de lui, l'homme immortel qui fut son bienfaiteur, ou plutôt celui du genre humain. Et là, il parle de Rousseau. Et toute la salle se réunissent les députés, retentit d'applaudissements unanimes, et Rousseau aura une statue. Mais Rousseau mérite plus d'après la Révolution. Il doit partager avec Voltaire les honneurs de l'apothéose. On est en 1791. Vous avez placé au Panthéon, disait un orateur, Victor Broglie, vous avez placé au Panthéon ce génie universel à qui on a reproché d'envahir tous les genres, mais qui ne s'en rendit maître que pour terrasser sous les pieds de la philosophie le monstre du fanatisme et de la superstition. C'est l'Église catholique qui est visée, évidemment. Voltaire fut le précurseur nécessaire de nos travaux. Il abattit devant vous tout ce qui pouvait vous faire obstacle. Donc ça, c'est très important à comprendre. Voltaire est celui qui a ouvert les portes du barrage. Souvent, je donne cet exemple pour vous aider à comprendre, souvent, mes paroissiens ou des gens son contact avec moi, me demande, monsieur l'abbé, de tous ces faux papes depuis la mort du pape Pie XII, quel est le plus dangereux? Et je réponds toujours, Jean XXIII. Mais monsieur l'abbé, vous avez tort de dire ça, Jean XXIII n'est quand même pas aussi mauvais que François. Jean XXIII est plus dangereux que François. Parce que qu'est-ce qu'a fait Jean XXIII? Jean XXIII a ouvert toutes les portes de ce barrage que représentait l'Église catholique contre les idées de la Révolution. Il a ouvert toutes les portes aux ennemis de l'Église en disant aux ennemis de l'Église, donnez-vous la peine d'entrer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que Monseigneur Gaume explique que Voltaire fut le précurseur des travaux de Rousseau. Il abattit devant Rousseau tout ce qui pouvait faire obstacle. Il rasa, pour ainsi dire, la place où Rousseau a édifié l'édifice de notre liberté. L'égalité des droits entre les hommes et la souveraineté du peuple, Rousseau fut le premier à les établir en système sous les yeux même du despotisme. Ces deux idées mères ont germé dans les âmes françaises et dans les vôtres par la méditation de ses écrits. Et si, comme on peut le constater, notre constitution entière n'en est que le développement, Rousseau est le premier fondateur de la constitution française. Donc Rousseau est le premier fondateur de la Déclaration des droits de l'homme, qui n'est rien d'autre que la négation de la Déclaration des droits de Dieu. L'homme devient Dieu. Donc les révolutionnaires vont rendre hommage aux vertus, aux talents, au génie de Rousseau. Moraliste profond, apôtre de la liberté et de l'égalité, il a été le précurseur qui a appelé la nation dans les routes de la gloire et du bonheur. Et ils ont le sens des termes. Et si une grande découverte appartient à celui qui l'a le premier signalé, c'est à Rousseau que nous devons cette régénération salutaire qui a opéré de si heureux changements dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans nos lois, dans nos esprits, dans nos habitudes. En fait, les changements ont lieu d'abord dans la cervelle. Rappelez-vous la formule de Ernest Hello, changez la façon de penser des gens et vous changerez la façon d'agir des gens. L'inverse est également vrai. Changez la façon d'agir des gens et vous changerez leur façon de penser. Bon. Si vous les faites penser comme des révolutionnaires, ils agiront comme des révolutionnaires. Si vous les faites agir comme des révolutionnaires, ils penseront aussi comme des révolutionnaires. Donc la révolution va travailler sur les deux choses. D'abord la cervelle, parce que il faut d'abord mettre le poison dans la source elle-même, à savoir la cervelle de l'homme, le cerveau de l'homme, pour qu'ensuite ça passe dans tout l'organisme, dans tout le fleuve lui-même. Donc à la voix de Rousseau, l'homme a été libre depuis le berceau jusqu'au cercueil. Monseigneur Gaume va donner même certains exemples des poèmes qui ont été récités en son honneur. Ô Rousseau, modèle des sages, bienfaiteur de l'humanité, d'un peuple fier et libre, accepte les hommages et du fond du tombeau, soutient l'égalité. Il faut pleurer un petit peu parce que ça va avec le texte. Plus loin, tes amis, tes concitoyens, pardon, philosophes sensibles et justes, nos oppresseurs furent les tiens dans la seconde patrie, Genève agitant son drapeau. Genève, ta mère chérie, chante son fils, le bon Rousseau. Donc, ainsi, il vient d'exprimer par l'offrande d'une couronne civique au mânes de cet ardent ami de l'humanité sa résolution de ne cesser de le prendre pour modèle et pour guide de ses travaux. Donc, Mgr Gaume note que l'apothéose de Rousseau rivalise avec celle de Voltaire. Jamais Paris ne rendit des hommages plus éclatants à Jésus-Christ lui-même. Jamais il ne fit de procession plus solennelle et plus pompeuse pour honorer le Fils de Dieu que celle où, promenant en triomphe les cadavres de Voltaire et de Rousseau, il les offrit à la vénération publique et les conduisit solennellement dans une église catholique devenue leur sanctuaire. Voltaire et Rousseau, honorés dans la capitale de la France à l'égal du Saint des Saints, et depuis 60 ans, la Révolution donnant à l'Europe et au monde le scandale inouï des deux coryphées du libertinage et de l'impiété, placés dans la même église que Jésus-Christ lui-même. La révolution n'est pas morte. Encore une fois, la révolution veut transformer l'homme en Dieu. Donc on donne l'exemple de Voltaire et de Rousseau comme des dieux. L'homme est devenu Dieu, l'homme étant devenu Dieu a le droit de faire ce que Dieu fait. Or, Dieu a créé une loi, l'homme a le droit de créer une loi. Dieu nous a donné à ses créatures la loi des 10 commandements. Donc, la révolution, les révolutionnaires ont le droit de changer ces commandements et de faire remplacer ces commandements de Dieu, je vous l'ai déjà expliqué, par la loi des droits de l'homme. C'est l'homme qui devient Dieu. Donc on va faire une nouvelle morale, une nouvelle religion. Il ne faut pas oublier ça. La République française actuelle est devenue une véritable religion. Donc en donnant au patriarche de Ferney c'est Voltaire, et au philosophe de Genève, c'est Rousseau, de semblables témoignages de piété filiale, la révolution ne dit-elle pas, dans un langage qui ne souffre pas plus de contradictions qu'il ne commande de commentaires, « Oui, je suis la fille de Voltaire » et fille de Rousseau. Les choses sont claires. Donc la Révolution française fut à la fois destruction et reconstruction. J'ai déjà expliqué, solvay et coagula. Monsieur Gaume répète. Destruction de l'ordre religieux et de l'ordre social établi, reconstruction d'un ordre religieux et d'un ordre social fabriqué par l'homme, dirigé par lui et organisé en vue d'assurer sa souveraineté universelle. Les principes de la révolution sont les principes de la renaissance. Qu'est-ce que ça veut dire renaissance? Nouvelle naissance. On part d'un nouveau préambule, si vous voulez. La société était fondée sur le Christ, la société va être fondée sur l'ordre. L'ordre, le nouvel ordre, plus exactement, et à savoir l'homme lui-même. Donc on assure la souveraineté universelle de l'homme. Dès lors, rien de plus logique que la double apothéose dont nous venons de retracer l'histoire, Voltaire et Rousseau. Voltaire personnifie, écoutez bien, c'est très important cette phrase, Voltaire personnifie spécialement la révolution dans son œuvre de destruction religieuse, Rousseau la personnifie spécialement dans son œuvre de destruction sociale. Donc Rousseau s'attaque à l'Église directement pour détruire l'enseignement religieux, l'Église catholique, alors que Rousseau va s'attaquer à la société elle-même pour faire passer le poison déjà élaboré par Voltaire dans la société elle-même. Donc Voltaire et Rousseau, l'un et l'autre, personnifient également dans ses principes la révolution de reconstruction religieuse et sociale. On reconstruit une société sur des bases totalement nouvelles. Ainsi, comme le chêne est tout entier dans le gland caché sous terre, de même au XVIIIe siècle, la révolution est tout entière dans Voltaire et dans Rousseau. Animés du même esprit que leur maître, les autres philosophes sont aussi, quoiqu'à des degrés inférieurs, les précurseurs de la révolution. Celle-ci, en fille reconnaissante, n'oublie aucun de ses aïeux et rend à chacun suivant ses œuvres. Or, il est un homme qui, par ses principes politiques, et par son admiration pour les institutions républicaines de l'Antiquité, marche l'égal de Voltaire et de Rousseau, qu'il devance par ses théories socialistes. Cet homme, c'est Mably, M-A-B-L-Y. Une soutane de moins et un peu d'éloquence de plus, et comme eux, il entrait au Panthéon. Donc Mably était un religieux, ce qui n'est pas le cas de Voltaire et Rousseau. On verra plus tard que Voltaire et Rousseau avaient reçu une éducation catholique. Mais Mably était en plus prêtre. C'est pour ça qu'il parle de soutane. Et il n'avait pas l'éloquence d'un Rousseau et d'un Voltaire, mais il n'en était pas moins dangereux pour autant. Même s'il est beaucoup moins connu que Voltaire et Rousseau. Donc les titres de Mably à cette gloire de la Révolution sont consignés dans ses ouvrages qui ont servi de flambeau dans la carrière de la Révolution. Quant aux autres philosophes du XVIIIe siècle, la Révolution ne laisse échapper aucune occasion de se proclamer leur fille et de leur payer le tribut de sa piété filiale. Dès le 1er août 1791, un autre révolutionnaire qui s'appelait Delandine dit: les auteurs des déclarations des droits naturels ont très bien établi que l'homme est né libre. Je me plais à adopter, à professer les mêmes principes, Locke, Cumberland, Hume, Rousseau et plusieurs autres les ont développés, leurs ouvrages les ont fait germer parmi nous. Ces philosophes qui nous ont les premiers appris le chemin de la du bonheur et de la liberté, ces philosophes décriés par toutes les tyrannies, ne doivent-ils pas enfin recevoir la récompense de leurs ailes en nous voyant profiter de leur lumière? On voit là tous les principes, non seulement de la révolution, mais aussi, et ça c'est très important à comprendre, de la franc-maçonnerie. N'oubliez pas que la franc-maçonnerie avait été créée en 1717. Donc au début des dégâts commis par Voltaire. Donc voilà ce que dit la Révolution. Montesquieu, Rousseau, Mably, Voltaire n'eussent point tourné librement leur réflexion sur l'état de misère où se trouvait réduite la pauvre espèce humaine. Et s'ils n'eussent point eu la noble hardiesse de publier leurs pensées à leurs risques et périls, jamais le peuple n'eût soupçonné ses droits, jamais il ne se fût insurgé. Soyez reconnaissants envers ceux de nos contemporains qui entretiennent avec courage ce feu sacré allumé par nos prédécesseurs. Et écoutez cette phrase capitale: un bon livre est un levier capable de remuer le monde entier. Ce qui veut dire qu'un mauvais livre est aussi un levier capable de remuer le monde entier. Un bon livre peut faire beaucoup de bien, un mauvais livre peut faire beaucoup de mal. Je donne souvent comme exemple un tableau que j'aime beaucoup, qui en dit bien des choses. Je dis souvent, lorsqu'une mère de famille monte au ciel, elle emmène plein de personnes avec elle, plein d'âmes avec elle dans ses basques. Mais si une mère de famille tombe en enfer, elle n'y tombe pas toute seule. Elle va emmener aussi plein de personnes, plein d'âmes avec elle dans ses poches. C'est la même chose pour les chefs de famille. Un chef de famille qui se damne, il ne se damne pas tout seul. En général, il va se damner avec sa femme et ses enfants. Un chef de famille qui se sauve, en général, ne se sauve pas tout seul. Il risque d'emmener, heureusement, avec lui, sa femme, son épouse et ses enfants. La prise de la Bastille, disent les révolutionnaires, est le premier des événements qui contribuèrent à la conquête de cette liberté. La raison recueille cette fois les fruits d'une victoire qu'elle avait longtemps préparée. Montesquieu, Rousseau, Mably, vous aviez forgé les armes dont fut frappée la tyrannie qui reléguait au rang des chimères les principes que vous avez révélés et que nous vous faisons gloire de professer. Donc Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, etc., tous ces gens-là ont armé le peuple du couteau qui va assassiner Louis XVI, et en assassinant Louis XVI, assassiner les pères de famille et en même temps assassiner, si c'était possible, l'Église. Déjà, le flambeau de la philosophie, pénétrant jusqu'aux conditions les plus éloignées d'elle, avait chassé tous les redoutables ou ridicules fantômes de l'ambition des prêtres, et la politique des rois nous avait ordonné d'adorer au nom, au nom du ciel. Bientôt, sans doute, l'évangile de la raison et de la liberté sera l'évangile du monde. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais trouvé un texte édité par un ordre religieux dont j'ai oublié le nom, complètement moderniste, qui disait: nous avons aux États-Unis un nouvel évangile, c'est l'évangile de la Déclaration des droits de l'homme. L'évangile de la raison et de la liberté est donc devenu, par la Révolution, l'évangile du monde. La philosophie a été, disent les révolutionnaires, ici c'est un révolutionnaire qui s'appelait Riouf qui parle, la philosophie a été notre force motrice. Que font les écrivains contre-révolutionnaires? Ils attaquent cette philosophie avec acharnement. S'ils parviennent à détruire l'esprit philosophique, ils feront infailliblement la contre-révolution. On peut donc dire avec certitude qu'un anti-philosophe est un anti-républicain. Anti-philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'admet pas les principes de la révolution des Lumières, les principes des encyclopédistes, est ipso facto taxé d'être contre la République. Et c'est vrai, vous voyez. C'est la même chose aujourd'hui. Je vous donne un petit exemple qui en dit long. C'est un petit exemple personnel, mais qui m'avait beaucoup frappé. Quand j'étais à l'université de médecine, c'était en 72, 73, quelque chose comme ça, à Marseille, j'avais la réputation d'être un fasciste. J'ai jamais fait partie d'un mouvement politique, quel qu'il soit, jamais participé à une manifestation politique. J'étais considéré comme un fasciste, vous savez pourquoi? Simplement parce que pour lutter un petit peu, autant que faire se peut, contre la débauche, le débraillement général, j'étais toujours en cravate. Le simple fait que j'étais en cravate dans l'université, dans les amphithéâtres, suffisait à me faire considérer comme un fasciste. Oui, et c'est la même chose aujourd'hui. Je vous ai déjà expliqué que la Révolution prenait grand soin de toujours associer les mots entre eux. Un catholique, un véritable catholique, pour eux, est systématiquement, ipso facto, un fasciste. Certes, il faut entendre ce qu'on veut dire par fascisme, hein, c'est un autre problème. Si un fasciste est un contre-révolutionnaire, si un fasciste est quelqu'un qui suit la loi catholique, alors, dans ce cas-là, on peut suivre le fascisme, c'est absolument évident. Alors, je continue avec le texte de Mgr Gaume. Il demeure donc bien établi que la Révolution s'est proclamée fille de Voltaire et de Rousseau ou de la philosophie du XVIIIe siècle. Alors voyons si cette descendance est fondée. Sur la parole de la Révolution, dit Mgr Gaume, on peut sans crainte répondre affirmativement. Donc la Révolution est véritablement fille de Voltaire et de Rousseau et la philosophie des encyclopédistes. Liberté, égalité, fraternité, qui avait été concoctée, je vous l'ai déjà expliqué, par les officines de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, je vous l'ai déjà dit, a commencé en Angleterre en 1717, mais a passé très vite la Manche, et ces officines, ces cellules franc-maçonnes ont fait énormément de dégâts dans l'élite de la nation pendant surtout la deuxième moitié du 18e siècle, et c'est ça qui préparait la Révolution. Nous le répétons mieux que personne, la Révolution connaît sa généalogie. Allons au fond des choses et rappelons-nous que toute la Révolution est dans ces deux mots, détruire et reconstruire, solvere et coagula. Détruire l'ordre religieux, première étape, et l'ordre social, deuxième étape, établi par le christianisme. Reconstruire un ordre religieux et un ordre social sur le modèle de l'Antiquité classique, voilà, à moins de nier l'histoire, toute la révolution dans la double phase de son existence. Révolution, ça vient du latin revolvere, retourner, tourner à l'envers. Le monde tourné dans un sens, on le fait tourner dans l'autre sens. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. On change les esprits. C'est la même chose, j'ai déjà expliqué, dans le mot renaissance, nouvelle naissance, nouvelle révolution. On peut résumer tout ce que dit Mgr Gaume par deux mots. C'est ou la révolution ou la révélation, change de lettre. Soit la révolution qui centre tout sur l'homme, soit la révélation qui centre tout sur Dieu. Soit la révolution qui suit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soit la révélation qui suit l'évangile, le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit la révolution qui suit la liberté, l'égalité et la fraternité, soit la révélation, pardon, qui suit au contraire les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Or, détruire et reconstruire, dit Mgr Gaume, n'est-ce pas là tout le voltairianisme, toute la philosophie du siècle passé, du XVIIIe siècle. Envisagé dans son ensemble, dans ses chefs, en France et en Angleterre, n'oubliez pas que c'est en Angleterre qu'a été fondée la franc-maçonnerie, dans ses principaux labeurs, dans ses efforts constants, la Grande Ligue des Lettrés du XVIIIe siècle est-elle autre chose, dit Mgr Gaume, qu'une attaque incessante contre le christianisme et contre l'ordre social établi par le christianisme? Quels principes chrétiens en philosophie, en morale, en politique, en littérature a-t-elle respecté? Quelle institution née du christianisme, depuis la papauté jusqu'aux ordres religieux, aux corporations laïques, à la société domestique, à la propriété même, n'a-t-elle pas battu en brèche? En un mot, quelle personne, quelle chose chrétienne a été à l'abri de ces sarcasmes et de ces sophismes? Donc la révolution, c'est l'anéantissement, si vous voulez, de l'arbre de l'Église catholique. Non seulement on coupe l'arbre, après on arrache les racines, et on replante quelque chose complètement différent. On va planter, de livrer à la place du bon grain, du bon blé. En même temps, quelles aspirations constantes vers la belle antiquité chez les révolutionnaires. Quelle louange de sa liberté, de sa civilisation, de ses vertus, de ses lois, de ses arts, de ses institutions, de ses usages, de ses philosophes, de ses orateurs, de ses poètes et de ses héros. Quels efforts persévérants pour reconduire les nations modernes vers ce type admiré. De ces faits généraux et de notoriété publique, il résulte que la révolution était dans la philosophie comme l'enfant dans le sein de sa mère, il parle ici de la philosophie subjectiviste évidemment, qu'elle était toute formée, toute vivante dans l'ordre des idées avant de devenir visible et palpable dans l'ordre des faits. On change l'ordre des idées pour changer l'ordre des faits. Changer la façon de penser des gens, l'ordre des idées, et on changera la façon de vivre des gens, l'ordre des faits. Souvent, quand j'expliquais ça à mes paroissiens, ils me disaient, vous savez, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et je répondais en traduisant avec des mots qu'ils comprenaient tout de suite. Je leur disais, si une jeune fille s'habille comme une prostituée, elle finira par agir comme une prostituée. Souvent, ils regardaient avec des yeux ronds et me disaient, ah, ça y est, j'ai compris. Ils avaient compris ce que je voulais dire. Elle est donc fondée, conclut Mgr Gaume, l'objection qu'on nous adresse en disant « La révolution française n'est pas fille seulement des études de collège, mais encore du voltairianisme. » Et de qui est fils le voltairianisme? Car enfin, il n'est pas né comme un champignon sous un arbre. Il a une généalogie. Quelle est-elle? Et les voltairiens nous répondent aujourd'hui même « Nous sommes philosophes et révolutionnaires. » Et nous en sommes fiers. Mais nous sommes les fils de la Renaissance et de la philosophie avant d'être les fils de la Révolution. Donc en fait, ils sont vraiment fils de l'Antiquité païenne de Rome et d'Athènes, des Romains et des Grecs, qui s'est ensuite transmis jusqu'à nous par l'intermédiaire de la Renaissance, de l'humanisme, de la franc-maçonnerie, en passant également par l'intermédiaire du protestantisme, Martin Luther, la franc-maçonnerie, avant d'arriver au voltairianisme, c'est-à-dire la philosophie des Lumières, qui va donner la révolution de 1789. Et ce n'est pas fini. Après, ça continue avec la révolution de 1848, avec la révolution de 1917, avec Vatican II dans l'Église catholique, à l'intérieur de l'Église, pour détruire l'Église catholique de l'intérieur. Donc Voltaire, Rousseau, Mably, Hume, Cumberland, les encyclopédistes et les autres philosophes entraînés dans leur orbite sont fils de la Renaissance et fils des études du collège. Ils ont été, dès le bas âge, formés par la Renaissance, nourris de son lait, animés de son esprit, et si d'autre part leurs ouvrages et leurs actes pendant tout le cours de leur vie ne sont que l'épanouissement de leurs études classiques. Toutes ces phrases sont fondamentales, même si Mgr Gaume répète des choses qu'il a déjà expliquées. Vous voyez à quel point Mgr Gaume a raison de tout expliquer. Je vous ai déjà dit que j'avais lu dans un livre qu'il fallait répéter 70 fois les mêmes choses pour que ça rentre dans la cervelle d'un enfant. Je pense que dans les cervelles de plusieurs des adultes que je connais, il faut même plus que répéter 70 fois. Alors, il y a 12 volumes dans l'édition que je suis de Mgr Gaume sur la Révolution. Alors, je vais répéter en suivant Mgr Gaume bien des fois les mêmes choses pour que ça rentre. Donc, Voltaire est un des exemples les plus effrayants de l'influence des études de collège sur l'esprit et le cœur de la jeunesse. Et là, il cite une citation que je crois il a déjà citée de saint Augustin. Écoutez bien ce que dit saint Augustin. Il y a pratiquement la même citation dans saint Jérôme. C'est en étudiant Virgile que, bien jeune encore, je perdis mon innocence. Ça a failli coûter très cher à saint Augustin, comme ça a failli coûter très cher à saint Jérôme. Saint Jérôme s'est converti, Dieu merci, est devenu le grand saint Jérôme, et saint Augustin, grâce à sa mère sainte Monique, est devenu un très grand saint. Saint Augustin est le plus grand saint de l'Église catholique. Mais s'il n'avait pas eu sa mère et son influence, l'influence de sainte Monique, on n'aurait pas eu saint Augustin. Napoléon disait « C'est en vivant au milieu des Grecs et des Romains et de leur myriade de divinités que j'ai perdu la foi. Et cela m'est arrivé d'assez bonne heure à 13 ans. Donc Napoléon reconnaît qu'il a perdu la foi catholique. N'oubliez pas qu'il va devenir un persécuteur de l'Église catholique. C'est lui qui va persécuter, notamment Pie VII, en emprisonnant le pape en France. Napoléon reconnaît que c'est en vivant au milieu des Grecs et des Romains et de leur myriade de divinités que j'ai perdu la foi. Et cela m'est arrivé d'assez bonne heure, à 13 ans. Voltaire, lui, a perdu la morale et la foi. Alors, cette phrase, encore une fois, pour ceux qui accusent Monseigneur Gaume de ne pas donner ses sources, en bas de page, il y a la référence. Donc, du texte de Saint-Augustin, « C'est en étudiant Virgile que bien jeune encore, j'ai perdu mon innocence. » Il précise que ça vient des confessions de Saint-Augustin. Et la phrase de Napoléon, « C'est en vivant au milieu des Grecs et des Romains, de leur myriade de divinités que j'ai perdu la foi, et cela m'est arrivé d'assez bonne heure à 13 ans. » C'est dans le mémorial de Sainte-Hélène. Alors, après avoir donné les généralités sur Voltaire et Rousseau, maintenant, Mgr Gaume va rentrer dans les détails. Donc, il explique que Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, naquit à Châtenay, près de Paris, le 20 février 1694. À 10 ans, il fut placé, devinez où, toujours dans ce même collège qui a vu passer tous ses révolutionnaires, au collège Louis le Grand, tenu par les jésuites. Jésuites qui ont été fondés par un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, Saint Ignace de Loyola. Et Voltaire a passé 7 années au collège Louis le Grand. Alors vous allez me dire, mais les jésuites étaient donc fils de Saint Ignace de Loyola, donc tout vient de Saint Ignace de Loyola qui a dû mettre le poison partout. Non, parce que Saint Ignace de Loyola est un saint, un très grand saint. Il n'aurait pas du tout été d'accord avec ça, mais Saint Ignace de Loyola, il est mort je crois en 1556. Et Saint Ignace de Loyola, c'était largement avant, mais malheureusement après, les études de collège, influencés par les idées maçonniques, ont perverti les cervelles de beaucoup, de la plupart des pères jésuites, qui pourtant étaient dans la plupart des cas des très saintes personnes, des gens qui priaient, qui faisaient pénitence, qui avaient un amour pour leurs élèves extraordinaire, qui passaient des heures et des heures et des heures à préparer leurs cours, à peaufiner leurs cours, à essayer d'avoir une bonne influence sur les élèves, mais qui ne se sont pas rendus compte que le poison, était déjà passé par là. Et donc, en ces 7 ans, dans ce collège Louis le Grand, eh bien, Voltaire et Rousseau et tous les autres, d'ailleurs, ont perdu la foi, tout simplement. On voit donc dans quel pays le jeune Arouet vivait au collège. Donc, voilà ce que faisait Voltaire. L'antiquité classique devint son horizon. Emprunté aux Grecs et aux Romains, leurs sentiments, leurs images, leur langage même, fut pour lui l'unique source du beau et la condition du succès. Toute sa vie poétique nous en offrira la preuve. Vous savez, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous pouvez donner la meilleure éducation au monde, vous ne pouvez pas détruire la volonté propre. J'ai déjà donné plusieurs fois dans ces conférences deux exemples qui me semblent très importants. Le premier, c'est l'exemple de Marine Le Pen, qui a reçu une formation traditionnelle catholique dans le collège Saint-Pilice à Saint-Cloud, qui était tenu par les dominicaines, qui a dû même avoir comme aumônier la Béarène, qui était sur bien des choses un saint prêtre. Le deuxième exemple que j'ai déjà donné, c'est Ségolène Royal, qui vient d'une famille totalement traditionnaliste. Ses frères et sœurs vont à la messe traditionnelle. Et pourtant, Marine Le Pen et Ségolène Royal ont totalement perdu la foi et utilisent toutes leurs influences maintenant pour faire rentrer les principes de la Révolution dans tous les cœurs. Rappelez-vous cette phrase que j'ai trouvée, je me répète, mais ça aussi c'est important, il faut que ça rentre, une phrase que j'ai trouvée en tête d'un tract du Front National de l'époque. Nous sommes ici pour sauver les principes de la Révolution. Ces principes de la Révolution qui sont les fruits directs du poison mis dans les cervelles surtout par Voltaire. Voyez comme il est important de comprendre ces choses-là. Donc cette phraséologie mythologique qui vient de l'adoration littéralement de l'Antiquité païenne, telle qu'on l'enseigne dans les collèges, voilà bien les sources poétiques ouvertes par la Renaissance au génie chrétien. Parlant de lui-même, Voltaire, qui comme ses camarades prenait au sérieux ses lois du Parnasse, ajoute qu'Apollon a présidé à sa naissance, que ce dieu puissant lui a ouvert son sanctuaire et autre chose non moins classique. La fréquentation assidue de la belle Antiquité ne tarde pas à inspirer au jeune Arouet, à Voltaire, plus précoce que les enfants de son âge, un profond dégoût pour le christianisme. Le père Poret et le père Leger remarquent cette disposition et se donnent des peines infinies pour faire goûter à leurs élèves les grandes vérités de la religion. Vains efforts, la place était prise, hélas, et pour toujours. Dès l'âge de 12 ans, le jeune Voltaire étalait les principes et faisait les railleries qu'il a déposées depuis dans une foule d'ouvrages. Il est très vrai que le père Leger lui prédit dès lors qu'il serait le porte-drapeau de l'incrédulité. Encore une fois, Mgr Gaume place en bas de page toutes les références. À la perversion de l'esprit se joint également la corruption du cœur. Les deux choses vont presque toujours ensemble. On commence par mettre le poison dans les cervelles, ensuite ça passe dans le cœur. Dès qu'il a franchi le seuil du collège, Voltaire a une maîtresse, fille de bonne maison, qu'il tente même d'enlever. C'était en 1713, il avait 19 ans, il a bien commencé. Si Voltaire a perdu au collège son innocence et sa foi, il a trouvé une passion invincible pour l'Antiquité païenne. Vous voyez, cela nous aide à comprendre, là je parle aux parents qui m'écoutent, à quel point il est important de préserver l'intelligence de nos enfants pour pouvoir préserver l'état de grâce dans les cœurs. L'inverse est également vrai. Si vos enfants ne sont pas en état de grâce, la plupart du temps, le péché va entraîner un attirance, si vous voulez, vers les principes révolutionnaires. Âme vide de christianisme et ivre de paganisme, voilà Voltaire avant même d'être sorti de Louis le Grand. Comment ce jeune enfant, entré au collège à 10 ans, avec le double trésor de la foi et de l'innocence de cet âge, confié à des maîtres vertueux et habiles, entouré de soins particuliers, se trouve-t-il si vite incrédule et libertin, contempteur public du christianisme et admirateur passionné du paganisme. Si Voltaire n'avait perdu au collège que la foi et les mœurs, on pourrait l'attribuer aux mauvaises compagnies et aux mauvaises lectures, ce qui pourtant serait peu vraisemblable dans un collège des jésuites et à une époque où la liberté de la presse n'existait pas. Ne serait-il pas plus naturel de dire que Voltaire a trouvé l'écueil de son innocence et de sa foi là où Saint Augustin, Napoléon, j'ai rajouté Saint Jérôme et tant d'autres ont trouvé l'écueil de la leur, à savoir dans les principes de l'Antiquité païenne, du paganisme païen. Je suis, dit Voltaire, fils de mon éducation littéraire. Je fus élevé non à Paris, au collège Louis le Grand par des jésuites, mais à Rome et à Athènes par Salluste, Cicéron, Tacite, Virgile, Ovide, Horace, Anacréon. Les pères Poret, Leger, Tournemire ne furent que mes répétiteurs, mes vrais professeurs furent les auteurs païens. Le cœur de Voltaire était contaminé et restera malheureusement contaminé jusqu'à la mort. Et Voltaire va prouver surabondamment en se moquant des enseignements des uns, en pratiquant fidèlement les leçons des autres, en poursuivant sans relâche ses répétiteurs de sa haine, de son mépris, de ses sarcasmes, tandis qu'il exaltera jusqu'au nu ses professeurs, leurs écrits, leurs idées et leurs actions. En effet, tel se montre Voltaire, dit Mgr Gaume, en sortir du collège, tel il sera jusqu'à la fin de sa longue carrière. L'analyse de ses ouvrages ne présente pas trois idées, elle n'en présente que deux. L'ignorance ou la haine du christianisme, l'admiration du paganisme. Si on réfléchit à l'empire souverain que l'élève du collège Louis le Grand exerça pendant plus de 60 ans sur l'Europe entière, on pourra mesurer l'influence de la Renaissance et des études classiques sur les idées et sur les mœurs, en un mot sur la philosophie du dernier siècle et par conséquent sur la Révolution française qui en est sortie. Une foule d'ouvrages sortis donc de la plume de Voltaire vont se répandre partout en Europe. Son zèle contre la religion, qu'il regardait comme la cause du fanatisme qui avait désolé l'Europe depuis sa naissance, de la superstition qu'il avait abrutie, et comme la source des maux que ses ennemis de l'humanité continuaient de faire encore, semblait doubler son activité et ses forces. Écoutez cette phrase très connue de Voltaire. Il y a deux phrases très connues de Voltaire. La première, je vous l'ai déjà citée, « Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose ». La deuxième phrase, c'est « Écraser l'infâme ». L'infâme, c'est l'Église catholique. La troisième, pardon, il y en a trois, c'est la suivante. « Je suis là ». D'entendre ces gens nous dire et répéter, il parle des catholiques, que 12 hommes ont suffi pour établir le catholicisme. Et j'ai envie de leur prouver qu'il n'en faut qu'un seul pour le détruire. Je répète ces trois phrases. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Deuxième phrase, écraser l'infâme. Troisième phrase, je suis là. D'entendre les catholiques répéter que 12 hommes ont suffi pour établir le catholicisme, et j'ai envie de leur prouver qu'il n'en faut qu'un seul pour détruire la foi catholique. Donc tous les genres de mépris déversés sur les siècles chrétiens, sur les gloires et les institutions chrétiennes par Machiavel, Ulrich de Hutten, Erasme et les autres renaissants, éblouis des beautés de l'antiquité païenne, leurs calomnies odieuses, leurs plaisanteries sacrilèges, reparaissent dans Voltaire assaisonnés d'un nouveau sel. Ce qui était arrivé au XVIe siècle se renouvelle, mais sur des proportions plus étendues au XVIIIe. L'ivraie du paganisme, jeté à pleine main dans le champ de l'Europe, va produire une vaste masse moisson. Et Condorcet ajoute, nous verrons que Condorcet est encore un des grands révolutionnaires de l'époque, on verra ça plus tard, les libres penseurs, disait Condorcet, qui n'existaient auparavant que dans quelques villes où les sciences étaient cultivées parmi les littérateurs, les savants, les grands, les gens en place, se multiplient dans toutes les classes de la société comme dans tous les pays. C'est la même chose aujourd'hui, hein. Comment se répand le virus de la révolution? Le virus de la révolution va se répandre, par exemple, d'abord par les universités, va se répandre par les écoles de journalisme, va se répandre par tous les écrans, surtout par Internet. Il faut bien comprendre ça. Tant qu'on n'a pas compris ces choses-là, on peut rien comprendre. Le poison est maintenant à l'intérieur même des esprits. N'oubliez pas que, je vous l'ai déjà expliqué, mais j'y reviens, il y avait trois personnes qui avaient un rôle fondamental pour aider les enfants à conserver la foi. C'était le prêtre, bien sûr, surtout dans les villages, le prêtre, l'instituteur et le médecin. Lorsque ces trois personnes travaillaient ensemble, au Moyen-Âge, il y avait un énorme travail qui était fait. Bon, certes, la médecine au Moyen-Âge était encore assez balbutiement, mais quand même, le principe est toujours vrai. C'est-à-dire, lorsque le médecin et l'instituteur travaillent ensemble, un travail extraordinaire peut être fait. Et lorsque le prêtre, le médecin et l'instituteur ont perdu tous les trois la foi, ce qui est le cas maintenant pratiquement partout, vous pouvez imaginer le genre de dégâts qui a été fait. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant que prêtre, dans certains cas très particuliers, en parlant avec certaines personnes qui se confient à moi, qui essaient de se faire aider par le prêtre, j'ai dû leur dire, écoutez, madame, écoutez, monsieur, dans votre cas, je pense que là, le rôle du prêtre ne suffit pas, il faut que vous voyez un bon médecin. Et dans certains cas, je leur disais même, me semble-t-il, il y a peut-être une infestation démoniaque chez vous, mais il y a aussi un problème médical. Il faut que vous voyez un bon psychiatre catholique, un vrai psychiatre catholique qui puisse un peu vous aider. Et j'ai connu des bons médecins catholiques qui disaient également à leurs patients, écoutez madame, écoutez monsieur, j'ai essayé de vous aider en tant que psychiatre, en tant que médecin, mais là je pense que on doit sortir de mon champ d'action et vous devez aller voir un bon prêtre catholique. Parce que vous avez besoin non pas seulement d'une aide médicale, vous avez besoin aussi d'une aide d'un prêtre. Vous avez peut-être besoin d'un exorcisme. Vous voyez, les deux choses travaillent ensemble. Lorsque le prêtre et le médecin travaillent ensemble, j'ai eu plusieurs cas comme ça, on peut faire un travail extraordinaire. Si en plus vous rajoutez la bonne influence de l'instituteur, alors les gens peuvent se sauver très facilement. Pour cela que beaucoup de pères de l'Église disent, à mon avis ils ont raison, et beaucoup de pères de l'Église et de grands docteurs de la foi catholique disent que, par exemple, au temps du Moyen-Âge, par exemple, du Haut Moyen-Âge, alors qu'il y avait une union entre l'Église et l'État, n'oublie pas qu'à ce moment-là, il y avait Saint-Louis comme roi de France, hein, c'était pas Macron comme roi de France, c'était Saint-Louis, pas pareil. Et ils disent, à ce moment-là, la plupart des gens se sauvaient, et je veux bien le croire. On peut vraiment dire que dans les temps où l'Église et l'État étaient unis, où il y avait ce travail extraordinaire de l'évangélisation apostolique du globe, si vous voulez, surtout au Moyen-Âge, en France en tout cas, dans le haut Moyen-Âge, il y avait ces prêtres qui prêchaient partout. La France était couverte, et l'Angleterre c'était pareil, était couverte d'un blanc manteau de monastères, de couvents, des prêtres partout, des religieux partout. La plupart des gens se sauvaient. Malheureusement, aujourd'hui, ces choses ont disparu. Il faut dire l'inverse, que la plupart des gens, hélas, doivent se damner parce que justement, le prêtre, le médecin et l'instituteur, au lieu de travailler pour le bien des âmes, la gloire de Dieu, travaille pour le malheur des âmes et le bien de la révolution. Votre texte cité par Mgr Gaume, il cite un autre révolution, quelqu'un qui s'appelle La Harpe, qui dit que Descartes avait fait une révolution dans la philosophie. Et Voltaire, lui, en fit une bien plus étendue dans la morale des nations, dans les idées sociales. L'un a secoué le joug de l'école qui ne pesait que sur les savants, l'autre a brisé le sceptre du fanatisme qui pesait sur l'univers. Ce sont des phrases capitales. Donc 70 ans d'une guerre à outrance contre Jésus-Christ, que Voltaire ose appeler l'infâme, contre sa personne adorable, contre ses dogmes, contre sa morale, contre ses mystères, voilà Voltaire dans ses œuvres philosophiques, dans sa correspondance, dans ses poésies fugitives, dans ses innombrables pamphlets, plus obscènes et plus impies les uns que les autres. Il a été poète, écrivait en 1781 l'archevêque de Vienne. Il a été poète pour chanter sur tous les tons de la poésie les leçons de l'impiété. Il a été orateur pour déclamer contre la religion et ses ministres. Il a été historien pour altérer les faits au préjudice de la révélation de l'Église et des saints. Il a été philosophe, ou jaloux de le paraître, pour obscurcir les vérités les plus précieuses des nuages du scepticisme. Il a dû à ce titre, plus encore qu'à ses talents littéraires, le bruit qu'il a fait dans le monde. Ajouterons-nous à tant d'excès l'amour effréné de la liberté populaire, l'aversion pour l'autorité souveraine, l'esprit d'indépendance? Voilà donc ce que c'est que cette édition promise avec tant d'emphase, un amas de sarcasme, de maximes anarchiques, d'ordures et d'impiété. Donc l'élève du collège Louis le Grand fut pendant toute sa vie, dit Mgr Gaume, ainsi que nous l'avons dit, le fils de son éducation littéraire, c'est-à-dire une âme vide de christianisme, ivre de paganisme. Dans ses différents écrits en prose ou en vers, Voltaire, fidèle disciple de la Révolution, fidèle disciple de la Renaissance, pardon, réchauffe toutes les fables et toutes les théories de l'Antiquité païenne, établit l'apothéose de l'homme au double point de vue de l'orgueil et de la chair et bat en brèche tout ce qui, dans l'ordre religieux et social, n'est pas l'ouvrage de l'homme émancipé. Si au lieu d'avoir étudié au collège pendant plusieurs années, appris par cœur et admiré les métamorphoses d'Ovide, les géorgiques de Virgile, les épîtres d'Horace et les travaux d'Hercule, Voltaire avait étudié avec le même soin la Bible et les autres auteurs chrétiens, aurait-il eu de pareilles idées? Suivant les auteurs païens, suivant Voltaire, leurs disciples, l'homme a inventé non seulement la société, mais la religion. Donc la connaissance de ce Dieu formateur, rémunérateur et vengeur est le fruit de la raison philosophique. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Voltaire va littéralement créer un autre Dieu. Voilà ce qu'il dit par exemple. Les sauvages sont libres, libres de la liberté d'aller nu, de vivre de chasse et de pêche, d'adorer les manitous, de se tuer, de se manger. Telle est la liberté de l'âge d'or. L'anthropophagie est donc une preuve de la liberté de l'âge d'or d'après M. Voltaire. C'est ahurissant. Lorsque ces théories insensées passant dans l'ordre des faits, la révolution s'efforcera de ramener les hommes au polythéisme et elle ne fera qu'imiter Voltaire, interprète de ses études de collège. Et Voltaire disait par exemple, autre exemple, l'ancienne religion de l'Inde et celle des lettrés de la Chine sont les seules dans lesquelles les hommes n'aient pas été barbares. Donc dans les auteurs de collège, si admirés de Voltaire, le paganisme est tour à tour métempsychose et panthéisme.